Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. Dans le documentaire Au plus profond, on voit une championne d'apnée libre lutter pour décrocher des records du monde de profondeur. On la voit s'enfoncer dans les eaux de plus en plus sombres, alors qu'elle ne sait pas si elle aura assez d'oxygène pour remonter toute cette distance. Et c'est intenable à regarder. Quelque part, on ne peut pas s'empêcher de trouver ça débile, qu'elle y retourne, qu'elle pousse toujours plus loin. Et en même temps, quand elle réussit, c'est l'exultation. Moi, ce qui m'a toujours fascinée, c'est plutôt la prise de risque dans un autre environnement, en montagne. Personnellement, je suis plutôt rando et je ne prends pas des risques fous. Mais je comprends qu'on puisse être enivré par la beauté des paysages, par ce qu'on ressent quand c'est dur et qu'on se dépasse, par l'appel des sommets. Alors, quelle ligne de crête trouver entre en même temps vivre, accepter qu'il y a toujours des risques qu'on ne peut pas contrôler, surtout en montagne, et de l'autre, ne pas se laisser emporter par l'ivresse. Le documentaire « L'alpiniste » retrace cette fois l'histoire de Marc-André Leclerc, un grimpeur et alpiniste canadien, qui a la fâcheuse particularité de gravir des sommets verglacés en solo, sans aucun moyen d'assurage. Alex Honnold, qui intervient dans le documentaire, a une réflexion intéressante. Pour le replacer, c'est le grimpeur américain qui a été rendu mondialement célèbre par son ascension d'El Capitan, à Yosemite, sans être assuré, en free solo. Juste un homme sur une paroi lisse pour qui la moindre chute est fatale. Je vous laisse visualiser. Et Alex Honnold dit, pour résumer, que le free solo provoque des réactions très émotionnelles, que si la personne réussit, elle devient un héros. Si elle échoue par contre, c'est un abruti. Mais il dit qu'on réussisse ou non, on est toujours la même personne. Si Alex Honnold est toujours vivant, Marc-André Leclerc, lui, est mort en montagne, à l'âge de 25 ans. C'était une sortie où il n'était pas seul, il était assuré, mais lui et son compagnon de cordée ont été emportés par une avalanche. Dans cet épisode de Passage, au micro de Maud de Carpentier, Jérôme et Jean-Luc, sur leur ligne de crête respective, en équilibre toujours fragile, face aux risques, aux dangers, à la beauté.
Dès qu'on arrive au camp de base, claque, on a vraiment l'image de cette montagne colossale juste en face de nous, là. L'Everest, en fait, du camp de base, on le voit, quoi. Hein. Donc, la vraie question qu'on se pose, c'est, OK, c'est un rêve, mais véritablement, est-ce que j'en ai les capacités ? Qui je suis pour prétendre faire l'ascension d'une montagne comme ça ?
Je suis Louise Emerlet. Bienvenue dans Passage.
Je tente l'Everest pour la première fois en 2010 avec une équipe française, mais avec une méthodologie très courte, c'est-à-dire le sommet en un mois. C'est un échec. Au niveau de l'acclimatation, il y a des personnes qui s'acclimatent très facilement et pour d'autres, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus laborieux, beaucoup plus long. Et c'est mon cas.
En 2011, quand je décide de concrétiser l'Everest, nous sommes sept Donc 6 à se connaître, plus donc quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui nous rejoint sur sa deuxième tentative, qui est Jean-Luc.
Pour l'Everest, le choix de ce sommet, c'est par rapport au Seven Summit, tout simplement. Les Seven Summits, c'est un challenge sportif qui consiste à gravir les 7 sommets les plus hauts de chaque continent. 7 continents, 7 sommets, dont l'Everest.
Je suis le plus jeune, donc avec 38 ans, et ça va jusqu'à 50 ans. Les profils, il n'y en a aucun de chevronné, sauf Jean-Marc, puisque lui, il est accompagnateur du CAF, le club alpin français. Mais tous les autres, on a un certain nombre de projets à notre actif, mais pas à un niveau technique démesuré, en fait. Donc, c'est un des paramètres du projet, comment sécuriser cette expédition. Sur l'Everest, il y a deux façons de l'aborder. Les puristes, voilà, l'abordent sans oxygène, donc avec un risque élevé de mort, puisque on se retrouve dans la zone dite de la mort, au-dessus de 8000 mètres, avec l'idée d'aller le plus vite possible. Et les non-puristes le font avec oxygène. Et la question qui est posée, effectivement, c'est le nombre de bouteilles d'oxygène et le débit qu'ils ont pour faire l'ascension finale. Alors nous, c'est clair, étant donné donc le profil des uns et des autres, c'est évidemment avec une équipe de Sherpa et évidemment avec l'oxygène.
La première des choses, c'est qu'on arrive à un camp de base qui se trouve déjà à 5200 ou 5400 mètres d'altitude. Et petit à petit, il nous faut gravir les étapes, faire des camps intermédiaires pour arriver à 6400 mètres, qui est le camp de base avancé, qui est le camp de base avancé le plus haut de la planète, à 6400 mètres.
Alors les Sherpas, c'est nos anges gardiens. C'est comme ça qu'il faut les présenter. Ils nous aident vraiment à faire le sommet. Donc, c'est effectivement les Népalais qui accompagnent donc les clients, parce qu'on est des clients, donc jusqu'au sommet. On est sur un projet à 22 ou 23 000 euros par personne. Et je vous dis, c'est pas trop cher, parce qu'aujourd'hui, là, c'était en 2011, aujourd'hui, on est plutôt sur des projets à 35, 50 000, voire 100 000 euros. Puisque les droits d'accès ou les permis d'ascension ont augmenté, les prestations aussi ont augmenté. Donc voilà, on est sur ces prix-là.
La très haute altitude, personne ne réagit de la même manière et c'est totalement épuisant. L'acclimatation en elle-même, elle peut être... on imagine une personne qui a du mal à finir un repas et qui est obligée de se lever pour quitter sa tente en titubant et d'aller carrément vomir dans les cailloux à plus de 6400 mètres d'altitude. L'être humain n'est pas fait pour vivre à ces altitudes-là. Génétiquement, au-delà de 7000 mètres, c'est ce qu'on appelle la zone de la mort.
Le mal de l'altitude, il y a 12 symptômes. À chaque fois qu'on monte d'un palier, on va ressentir ces symptômes. Les premiers symptômes, c'est j'ai mal à la tête, j'ai des nausées, j'ai plus soif, j'ai plus faim, j'arrive pas à dormir. Donc ça, c'est des symptômes qu'on a, mais même si on fait l'ascension du Mont Blanc. Et on arrive aux 11 et 12 qui sont œdème pulmonaire ou œdème cérébral. Okay, mais avant, il peut y avoir des formes de délire. Et donc là, c'est ce à quoi on est vigilant. Depuis le début, depuis le trek, tous les jours, on fait des relevés individuels. La tension et surtout le taux de saturation en oxygène. J'ai un ordinateur et je suis responsable de prendre l'évolution de chacun. Donc je fais un petit tableau Excel avec des courbes pour voir comment chacun s'acclimate aux différents paliers d'altitude.
Donc là, on va quitter la zone de moraine et le pied du glacier. On va se projeter sur le col nord pour aller faire une nuit à 7000 mètres. Là, ça nous permet de voir comment les corps réagissent.
Donc là, c'est chouette. C'est un peu dangereux parce qu'on passe à travers des séracs. Un gros bloc de glace qui pourrait nous tomber dessus, en fait. Ça veut dire que au-dessus de toi, tu as l'équivalent d'une maison ou d'un immeuble qui, quand le glacier avance, peut se décrocher et te tomber dessus, déclencher une avalanche, etc. Donc on arrive gentiment à 7000.
Et le lendemain de cette nuit, on fait une poussée jusqu'à 7500 mètres, sans oxygène. Là, pareil, ça nous permet de voir comment les corps réagissent et il n'y a pas de souci.
Alors là, la montée à 7500 est plus difficile. Et je ne suis pas le seul à être au bout, parce que quand on est redescendu en fait, au camp de base avancé, on était vraiment tous claqués, quoi. Là, on a commencé à se dire qu'on a un projet qui est plus important que nous, qu'on n'a pas le niveau.
Ça va ?
Oui. Heureusement que ça s'arrête.
Ça se passe bien, il n'y a pas de problème majeur avec qui que ce soit. Pas de maux de tête, pas de personnes qui vomissent, ce genre de choses, pas de gelure, rien. tous les clignotants sont au feu vert.
Hey, Polo, c'est un métier en montagne.
Donc là, la décision est prise d'aller se reposer donc dans un village tibétain. Donc on redescend en dessous du camp base. Le camp base est à 5002 et le village dans lequel on va est à 4000 à tout casser.
Le but, c'est de recharger des batteries, de vivre avec les Tibétains, de retrouver la vie. C'est prendre le temps de faire la chose et d'épargner, de s'épargner un maximum de douleurs.
D'abord, on repart euphorique. Alors là, on est prêt à tout casser. Hein. Mais c'est intéressant de l'avoir en tête, parce que quand on est monté la première fois à 7005, là, on était vraiment mais complètement dépité. Quand on est dans le bus pour remonter jusqu'au camp de base, on se dit, bon, ce soir, on est au camp de base, demain, on est au camp intermédiaire, après-demain, on est au camp 1, donc c'est bon, dans 7 jours, on est au sommet, quoi. Et on est prêt pour ce qu'on appelle l'assaut, donc c'est faire camp 1, camp 2, camp 3, sommet, redescendre. Ça s'appelle l'assaut, ça fait très militaire, mais c'est l'assaut, on va dire que c'est l'ascension finale, mais c'est l'assaut, hein. Tous les alpinistes parlent d'assaut, en fait. On prend d'assaut la montagne, alors que c'est vrai qu'on fait plutôt avec les conditions que le contraire. On n'est pas dans une logique de dominer un élément ou un environnement, mais c'est faire avec ce qui est proposé. Et là, ça ne se passe pas comme prévu parce que la fenêtre météo n'arrive pas.
On ne peut pas se projeter sur le sommet comme ça en disant c'est demain et non, il faut que la météo soit compatible. Il faut que les vents ne soient pas des vents trop soutenus. On ne peut pas tenter un sommet comme ça avec des vents de même 50 km/h, c'est déjà trop. En plus, c'est sur le fil d'une arête, c'est pas possible.
La décision d'autoriser tous les alpinistes à monter est entre les mains du Chinois, qui est le chef du camp. Donc, je suis dans la tente avec le chef chinois. Et donc, à rendez-vous à 11h, tour de table pour savoir ce que disent les routeurs météo du monde entier, pour avoir une visibilité sur la fenêtre météo. Et ce que je me rappelle, c'est qu'il nous laisse parler les uns après les autres. Et ensuite, il ouvre son ordinateur et lui, il a un routeur météo qui est à Lhasa. Donc, c'est lui le plus proche, en fait, de la situation. Il nous laisse parler. Il ouvre l'ordinateur portable. Il regarde la météo. Et il dit que ben, la météo de Lhasa dit qu'il n'y a pas de fenêtre météo. Donc, rendez-vous demain, 11h. Et personne n'a le droit de monter. Et la conséquence de ça, c'est que plus tu attends à 6400 mètres, et moins tu as de chances de monter. Parce qu'à 6400 mètres, ben, le corps, il se fatigue, en fait. On reste 6 jours avant de tenter l'assaut. Donc autant dire que bah, le moral, hein, il commence à descendre. Et puis même physiologiquement et physiquement, on fait rien. C'est-à-dire que là, on est dans un camp, on marche 100 ou 200 mètres par jour. On est apathique et on attend en fait. Donc toute l'énergie qu'on a cumulée en allant se reposer dans le village, là, on commence à la perdre. Jusqu'au jour où bah, nous, on voit aussi la fenêtre météo apparaître. Donc, avec notre routeur suisse, on commence à créer de l'espoir. On fait le tour de table. Tout le monde dit 20 et 21 mai et on est tous suspendus, évidemment, à la décision du chef de camp chinois qui ouvre son ordinateur et qui dit 20 et 21 mai, c'est OK, fenêtre météo, je donne mon OK. Et là, il referme l'ordinateur et il dit, avant de partir, il faut quand même que je vous explique la règle. Bon, on est tous là à attendre. Il dit, il y a 2 jours de fenêtre météo. Le 20 mai, c'est pour les Chinois. Et le 21 mai, c'est pour le reste du monde. Il y a un chef d'équipe qui dit, mais vous êtes combien, vous? Et nous, on est combien? Et le Chinois qui répond, il dit, bah, nous, les Chinois, on est 15. Avec 15 Sherpas, ça fait 30. Et vous, le reste du monde, vous êtes 80. Avec 80 Sherpas, ça fait 160. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être 160 sur la montagne. Donc, il y a un risque d'embouteillage, peut-être, à un moment donné.
Ça va être difficile, difficile, parce que si la personne n'avance pas, il faut pour la doubler.
On monte à 7000, on dort à 7000. Le lendemain, on part pour aller à 7005. Moi, je pars en dernier du camp. Je vois au loin quelqu'un de notre équipe que je n'arrive pas à reconnaître. Hein, c'était à une centaine de mètres, qui n'avance pas. Quoi. C'est Catherine que je retrouve. Et je lui dis, ça va Catherine? Elle me dit, bah non, j'ai plus d'énergie, j'y arrive plus. Ben, je dis, c'est pas grave, de toute façon, tu vois bien, le camp, il est là, on a toute la journée pour monter, on n'est pas attendu au camp. Elle dit, ah non, mais je veux redescendre. Donc, c'est la première à abandonner. Ah, et donc, déjà, ben, de 7, on n'est plus que 6 à pouvoir tenter le sommet. C'est une alerte de voir qu'une coéquipière qui abandonne, d'autant plus que moi, j'ai en tête que, ben, comme je prenais les paramètres des uns et des autres, c'est Catherine qui est la mieux acclimatée sur tous les paramètres. Je te dis, ben, tiens, elle lâche, on est prêt. On a perdu l'énergie à 6004, c'est la mieux acclimatée, et elle lâche. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous?
Là, on imagine des personnes qui ont fait beaucoup de sacrifices. Tout le monde a envie de réussir, tout le monde. Sauf que, à un moment donné, psychologiquement, il va peut-être y avoir une petite étincelle dans une personne, une douleur sur une autre. Il y a une petite chose qui fait que l'esprit va bloquer le corps. Donc, il y a une appréhension énorme, il y a de la peur. On ne sait pas ce qu'on va trouver plus haut. Et en fait, les personnes qui sont autour de moi, personne n'est jamais allé aussi haut. Personne. On est tous dans un état d'anxiété abominable avec la peur d'échouer. Mais surtout, qu'est-ce qu'on va voir? Comment ça va se passer?
On arrive à 7000 sols. Et là, on se retrouve à 3 partantes. Et c'est la première nuit qu'on passe sous oxygène. Avec un débit à 0,5 litres minute, donc très faible, mais en tout cas sous oxygène. C'est bizarre, quoi, parce qu'on a l'impression d'aller chercher. Enfin, il faut, quand on respire, là, voilà, l'air il rentre naturellement dans les poumons. Là, on a l'impression qu'il faut tirer, quoi, en fait. Hein, donc, on a une impression d'asphyxie. Donc, on est vraiment là dans les conditions de se dire attention, j'ai plus ma place où je suis. À partir de maintenant, là, j'ai vraiment pas ma place dans l'environnement dans lequel je suis, quoi. Donc, on dort plus ou moins bien. Et le lendemain, donc, on repart donc de 7005, on repart à 7h ou 8h du matin. Et l'idée, c'est d'aller donc en début d'après-midi à 8002, donc au camp numéro 3. Donc on arrive à 1h de l'après-midi, on sait qu'on va repartir le soir, on ne sait pas encore à quelle heure. Normalement, c'est, hein, l'heure habituelle, c'est plutôt partir à 11h du soir pour faire le sommet. Là, on a la contrainte. Qu'on est nombreux, qu'on veut éviter les embouteillages et qu'à 4h de l'après-midi, le lendemain, il va y avoir du vent. Donc, il y a petite négociation entre les expéditions pour savoir qui part à quelle heure. Et nous, comme on privilégie la sécurité, on dit on part quasiment les premiers, en fait en réalité deuxième, on part à 8h30 du soir. Dans l'idée de faire ça en 9h. C'est à peu près le temps qu'il faut pour faire ces 650 mètres de dénivelé qui restent et ces 2 km de voie. Voilà, donc ça veut dire que de 1h de l'après-midi à 8h30, on essaie de se reposer, on se change, on s'hydrate, on mange, etc. Quoi. Voilà, c'est ce qui se passe. Et surtout, on a le temps d'angoisser. On est trois dans la tente. Moi, je suis avec Jean-Luc, Christian. Et donc, on parle avec les uns les autres pour être sûr qu'on part bien à 8h30 et pour être sûr que tout le monde a envie de partir. On le fait ça par taki-walki parce qu'il y a du vent et donc, entre tente, on ne s'entend pas. Et là, Dominique et Christian se disent, on renonce. On ne veut pas faire le sommet. On va essayer d'aller le plus loin possible, mais on partira que demain matin. Donc, on n'est plus que quatre à décider de partir à 8h30. Polo, Jean-Luc, Jean-Marc et moi. Donc, rendez-vous est donné à 8h30 le soir pour attaquer. Il fait nuit, bien sûr. Donc, commence l'ascension. Un Sherpa ouvre la voie. Je suis en deuxième. Ensuite, il y a Jean-Luc, un Sherpa, Polo et un Sherpa. Il est 8h30 du soir. On part et il fait nuit et il fait froid. Quand j'arrive sur l'arête, en fait, c'est là où on voit vraiment le sommet de l'Everest. Et je me rappelle avoir fait ce signe de regarder très, 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 très haut comme ça. C'est-à-dire qu'on voyait les frontales des Russes, puisque les Russes sont partis à 5h30, que nous, on part à 8h30, donc ils ont 3h d'avance sur nous. Et donc, ça fait comme un ver luisant sur la montagne. Et j'ai vraiment l'impression de me tordre le cou pour regarder ça. En hauteur, et je dis, mais c'est pas vrai, quoi, ça n'y arrivera jamais, mais c'est super, super, super haut. Alors, dans la nuit noire, on voit très bien, d'abord, c'est pleine lune, donc c'est très éclairé, et avec le blanc de la neige, ça reflète vraiment bien. Ensuite, avec la frontale, on arrive à voir à 50 mètres devant. Et ce qui se passe, c'est que la frontale de mon Sherpa, moi, il n'y a plus de piles, et il essaie de changer les piles, il n'y arrive pas, et donc il me dit, passe en premier. Donc là, je dis, super, je vais pouvoir aller à mon rythme. Je marche en premier. Et là, donc à l'allure de la frontale, à une cinquantaine de mètres, je vois une forme en fait allongée sur la neige. Puis en fait, au fur et à mesure que je me rapproche, je vois que c'est un cadavre qui est vraiment sur le passage. C'est-à-dire que je vais vraiment lui passer au pied. Hein, la corde et le chemin passent à ses pieds. En fait, qui me trouble, c'est que il est allongé, donc il est habillé, mais c'est surtout en fait que il a une main qui est relevée et en fait il a dû perdre un gant, donc je vois sa main en fait et sa peau émaciée. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui a pu lui arriver en fait pour être là? Il n'y a pas de paroi autour, donc forcément c'est ou de la fatigue ou une crise cardiaque ou un œdème. Enfin, je ne sais pas si ça lui est arrivé à lui, ça peut m'arriver à moi. Et je prends vraiment conscience que jusque-là, j'étais dans un vrai déni par rapport à la possibilité de mourir, en fait, sur l'Everest. Et alors là, mentalement, j'ai un petit effondrement par rapport à cette situation. Donc, je sais pas comment je gère le truc. C'est-à-dire, je me refocalise peut-être sur le pas d'après. Donc, je me remets en marche. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai pris un super avertissement.
J'envoie la lampe frontale sur le côté et là, je suis face à un tibia congelé qui sort de la glace. C'est une chaussure et un pied complètement congelé, posé sur la glace. Et je vois la jambe de cette personne. J'imagine la personne qui est congelée sous cette glace, qu'on ne voit pas. C'est quand même une image en pleine nuit qui est quand même assez déstabilisante. Elle est déstabilisante parce qu'on ne sait pas où on va. Mais on se dit, on croise une personne qui est là depuis combien d'années. Ça pourrait très bien être moi, plus loin. Ça, c'est une vision d'horreur quelque part, parce que la montagne, à la base, c'est pas ça. La haute montagne, c'est pas ça. Ça, c'est une image qui me choque, parce que je suis pas là pour ça. Je suis là pour voir du beau. Ça, c'est très dur. L'image qui arrive après, encore plus difficile à vivre, c'est carrément une personne qui est dans un duvet, qui est momifiée dans la glace, et là, je regarde le visage, je me dis, tu y es là. Là, tu es sur les pentes de l'Everest, tu sais où tu es, donc, mais il faut pas que ça se termine comme ça. Il faut pas que ça se termine comme ça. Alors, tu continues, tu marches, tu suis les autres, tu fais attention où tu mets tes pieds. Il y a le froid. Le froid, ben, tu essaies de le maîtriser tant que tu peux. Et puis, tu regardes. Et puis, tu as ces lumières qui sont plus haut. Et en fait, ça t'attire. C'est un peu comme des lucioles. Elles t'attirent vers le sommet et tu dois pas quitter le train. Le train, c'est ça. Ça, c'est des belles images. Après le sordide, on a quand même des belles images.
Je ne m'arrête pas quand je vois le cadavre, on passe à ses pieds et j'enchaîne. Je suis premier, donc je suis un peu poussé par les autres aussi. Et on n'en parle pas non plus parce qu'il y a un peu de vent, on a le masque à oxygène. Donc en fait, la communication entre nous est très très réduite. Hein, c'est pas une petite balade en forêt, on n'est pas les uns à côté des autres, on est les uns derrière les autres. Il y a 5 ou 10 mètres d'écart entre nous. Et donc on ne s'arrête pas pour en discuter.
On ne se parle pas parce qu'on est dans notre univers et... Moi, j'adopte un style qui est un peu le meditation walk. Je suis sur mon chemin, je vois des choses qui me font mal, mais je continue et pour continuer à avancer, je pense à d'autres choses. Par exemple, je pense à mon père. Je pense à mon père et je dis, je fais un pas pour toi, papa. Je pense à ma famille, j'avance. En me disant, bien sûr, que je ne veux pas non plus être privé de cette vie qui m'anime. Et je veux donc pouvoir continuer à vivre cette vie.
Je vois au loin deux alpinistes qui sont en train de s'affairer autour d'un cadavre. Et là, je me dis, ça va pas du tout. Là, j'ai des hallucinations. Et puis, je me rapproche et puis je vois effectivement deux alpinistes qui sont en train de faire les poches d'un cadavre. Et donc, j'essaie vraiment de me concentrer, de dire, c'est des hallucinations, c'est sûrement le choc ou l'impact de ce que je viens de voir jusque-là. Et puis après, je me rappelle, mais ça revient doucement, c'est que j'étais dans la tente là du responsable de village, là, le chef chinois. Une fois qu'on a dit le go pour le 20 et 21 mai, il y a des alpinistes qui sont venus le voir et qui ont dit, j'étais encore dans la tente donc je les ai entendus dire, qu'ils étaient mandatés par la famille pour récupérer donc auprès de cette personne son portefeuille, peut-être son carnet ou son appareil photo. Donc c'est à ce moment-là que ça me revient. De me dire, mais oui, bien sûr, c'est effectivement pour la famille qu'ils recueillent les objets personnels. Donc sur les cadavres sur l'Everest, il y en a à peu près 200 qui sont recensés ou déclarés ou identifiés. Donc certains sont encore sur la voie. En fait, c'est très difficile de les redescendre. Quand on est à cette altitude-là, on a très peu de force, en fait. Hein. Je vais dire une bêtise, mais on a les 50% de ses capacités physiques et puis à peu près 50% de ses capacités cérébrales. Et donc, quand quelqu'un décède, il faut de la force pour le redescendre. Donc, il faut 3-4 Sherpas pour le redescendre. Donc, il n'y a pas toujours 3-4 Sherpas disponibles pour le faire. Et puis, ben, je vais être très cru, mais c'est un corps chaud sur la glace. Et donc, ben, le corps, il se soude assez vite à la glace. Voilà. Et après, il gèle. Et donc, du coup, ce que font les Sherpas, c'est que très vite, ben, peut-être ils poussent certains cadavres dans les crevasses. Donc, des fois, ils ne peuvent pas. Et donc, le cadavre reste là.
On essaie tous, dans l'instant, de gérer ses problèmes soi-même. sans importuner forcément la personne qui est à côté. C'est-à-dire que, bon, il y a une douleur qui est personnelle, on ne peut pas la partager. Il y a des problèmes techniques, on ne peut pas les partager. Il faut continuer à avancer et je tombe, je suis sur cette corde et je tombe. Les autres ne se rendent pas compte que je tombe. Ça veut dire qu'on est quand même tous un peu dans notre univers et omnibulés par le sommet. Après, au niveau des problèmes que je dois gérer, c'est par exemple le fait, à un moment donné, d'être carrément incapable de voir. C'est-à-dire, le masque, lui, à un moment donné, est recouvert de buée. Je ne sais pas où je pose mes pieds. Et alors, ce masque, je l'enlève. La conséquence, c'est que mes yeux peuvent geler. Mes pupilles, mes rétines sont directement exposées au froid. Et je me suis rendu compte que mes cils, en fait, étaient recouverts de glace. Ce qui fait que quand mes yeux ont tendance à cligner, les cils sont collés. Et donc, je passe la moufle sur les cils pour casser cette glace, afin que mes yeux puissent s'ouvrir. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Casser la glace sur mes cils, ça ne m'est jamais arrivé.
Alors donc là, ça se complique. Il y a deux événements. Le premier, c'est que je sens que j'ai les orteils qui commencent à geler. Dans les chaussures d'alpinisme, le pied, il ne bouge pas, en fait. Hein, et donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'à chaque pas, j'essaie d'activer les orteils pour activer la circulation jusqu'au bout des orteils. Et donc, je le fais sur chaque pas jusqu'à ce que mon gros orteil là, du pied gauche devient sensible et je sens que j'arrive de moins en moins à l'activer. Donc, je suis à peu près à 100 mètres du sommet, là. Et donc, je prends la décision de dire, entre le sommet et l'orteil, si près du but, c'est le sommet.
Il y a une pente de neige qui a 8800 et quelques mètres. Et donc, je revois encore les pieds de Jérôme dans la nuit. Je les revois, les pieds de Jérôme. Il est bougé, il les faisait taper contre la neige, contre la glace. Et je me suis dit, tiens, il doit commencer à sentir que ça saisit, que ses orteils se saisissent. Ou alors, il essaie de faire revenir un semblant de chaleur, de faire circuler le sang et tout. Et alors, je dis, mais dans ma tête, je me dis, mais toi, bouge tes orteils. Alors, moi, je bougeais mes orteils. Et puis après, je me retourne à ce moment-là. Et sur le Chouyou, donc à 8000 qui est à côté, dans le même alignement que l'Alouest, un éclair qui passe à travers comme ça, là, le ciel, qui venait de très très haut, et qui descendait comme ça. Et je me suis dit, mais t'es où là? T'es où? Mais c'est Zeus qui est en train de foudroyer là. Ah, t'as pas à être ici, mais quand même, t'es encore à tirer.
Deuxième élément, en fait, c'est que j'avance et je vois un groupe de Russes qui redescend. L'alpiniste qui est devant moi, le premier, là, le russe, en fait, à 5 mètres, ben, il s'arrête et il s'affale sur lui-même. En fait, il faut comprendre qu'il y a une corde fixe. Et quand on monte ou quand on descend, on utilise la même corde. Et il y a une règle, c'est que c'est celui qui descend, qui se détache de la corde, qui fait le tour de celui qui monte et qui se rattache dessous. Parce que nous, quand on monte, on a une poignée auto-bloquante. Et c'est vrai qu'avec les grosses moufles et tout, c'est un peu compliqué à sortir la poignée, etc., etc. Et là, je comprends que bah, pour monter, c'est moi qui vais devoir me détacher. Et que lui, il n'a pas la force de se détacher. Et que par sécurité, il vaut mieux qu'il reste attaché. Hein, s'il était vraiment tombé sur lui-même. Et donc, bah, je me détache, je fais le tour de lui et je continue. Et c'est la seule caractéristique, et c'est pour ça que je m'en rappelle absolument, c'est qu'il a exactement la même combinaison que moi. Même couleur, même marque, et la même frontale que moi. Quand je le croise, donc on ne se parle pas, on continue, et lui, il est avec trois Sherpas. Hein. Je ne vois pas d'alerte spécifique par rapport à lui, et je ne me sens pas de responsabilité de l'aider, puisqu'il est déjà aidé par les Sherpas. C'est la règle, en fait, qu'on se donne tous.
Beaucoup plus haut, nous croisons John, qui est un Irlandais, qui a des gros, très, très gros problèmes. Il est incapable d'avancer. Et nous-mêmes, on ne peut absolument rien faire pour lui. Bon, il est accompagné d'une personne et on passe à côté de John et je lui dis juste « good luck ». J'envoie la lumière dans son masque, mais à l'enfrontale, j'ai l'impression que ses yeux sont déjà plus là, quoi. Physiquement, il se passe quelque chose, ça c'est certain. C'est des images qui sont dures, parce que quelque part, quand on fait de l'alpinisme, on n'est pas formaté à abandonner quelqu'un. On a cet esprit de dire que quoi qu'il arrive, s'il y a des soucis, de tendre la main ou ce genre de choses. Mais il faut quand même qu'on imagine des personnes qui sont là où elles ne devraient pas être. Donc déjà, on est dans une dimension qui est humainement très, très dure. Mais on est dans cette action de ce sommet et de ces frontales qui vont vers le haut. Et quelque part, toutes les personnes qui sont là à ce moment-là ont toutes envie d'aller vers le haut. Celles qui n'arrivent pas en haut, c'est celles qui vacillent au niveau du corps ou c'est celles qui vacillent au niveau de l'esprit.
Il reste plus qu'à aller sur la cime qui est un peu plus loin. Et là, c'est une succession de comme des vagues. Et en fait, on a l'impression, quand on voit la vague, la première, on dit là, c'est bon, j'arrive au sommet. Mais dès que tu arrives au sommet de la vague, tu as encore une autre vague derrière et ainsi de suite. Ça n'en finissait plus.
Il y a la nuit, il y a le froid. On a de la glace qui a commencé à couler et qui est collée sous le menton. Et là, tu arrives sur le dernier ressaut. C'est-à-dire qu'on ne voyait plus que les étoiles. Je me dis, c'est pas possible. Et il y a Jérôme qui est devant moi et je lui dis, emmène-moi au sommet. Comme pour le booster lui. Pour le booster lui, mais pour le booster moi. Je dis, mais parce que Jérôme est devant. Si lui, il va avancer, moi, forcément, je vais être aspiré, je vais être attiré et je vais y aller. Il y a Polo qui est à côté de moi, derrière. Et finalement, en disant ça, en l'espace de, je sais pas, de quelques minutes, nous sommes là, au sommet.
Jusqu'au moment où je tire la corde et je me dis, tiens, celle-là, elle répond pas pareil. Donc derrière la vague, c'est le sommet, quoi. C'est le sommet. Et effectivement, derrière la vague, c'est le sommet. Et donc j'arrive le premier au sommet, puisque du coup, le Sherpa était derrière. Je m'assois, donc déjà, il fait nuit, parce qu'on est monté trop vite. On aurait dû arriver à 5h30 du matin, donc on aurait dû mettre 9h comme prévu pour faire camp 3 sommet. Mais on a fait 7h, donc on était plus vite que prévu sans s'en rendre compte. Donc, déception. On n'a pas la super vue sur l'ensemble de l'Himalaya. Alors on y voit parce que avec la lune, on voit les sommets enneigés et tout ça, mais on n'a pas la super vue. Pas profiter, et puis le lever du jour c'est dans 2 heures, il fait moins 35, on va pas rester 2 heures au sommet à attendre, parce que là c'est trop dangereux. J'ai cette pensée très très négative qui est de me dire que je suis sur le toit du monde, mais que maintenant il va falloir redescendre.
Là on arrive, je m'agenouille littéralement dans les drapeaux de prière, et c'est une satisfaction, ça. C'est aussi un ouf. Tu y es, t'es au sommet. T'es au sommet de l'Everest. Ça, c'est quand même, dans une existence, c'est quand même extraordinaire.
Et à un moment donné, je vois Jean-Luc embrasser le sommet. Et il me fait « Ah, Jérôme, c'est le plus beau jour de ma vie !» Et je le regarde, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il est fou, celui-là ?» Moi, je suis fatigué, et lui, je le vois, il est euphorique. C'est sa deuxième tentative, et là, il réussit, il est euphorique. Et on a un décalage tous les deux, c'est-à-dire que lui, il est plus en forme que moi, et mental et physique, et donc il peut en profiter. On reste 20 minutes au sommet, et pendant 20 minutes, je suis très préoccupé par mon orteil, par mon niveau de fatigue, et par la conscience que, d'une manière générale, tous les décès, ils sont à la descente. Donc je ne sais pas ce qu'il me reste comme réserve d'énergie pour redescendre, sachant que la descente, on est à 8848 mètres, c'est forcément redescendre à 7000 ou à 6004. Puisqu'il est hors de question de s'arrêter au camp 3 ou au camp 2, puisqu'ils sont exposés au vent, et qu'à 4h de l'après-midi, il y aurait du vent. Je prends conscience au sommet des forces qui me restent, et de me dire, là maintenant, c'est maintenant que ma vie se joue, quoi.
Quand on se rend compte des sacrifices qu'il a fallu pour arriver là, en plus, moi, j'ai vraiment un cursus d'alpiniste à la base. Et donc, j'ai gravi les étapes petit à petit dans ma vie d'alpiniste. J'ai commencé dans les Alpes du Sud, après les Alpes du Nord. Après, j'ai commencé une première expédition en Himalaya, puis la Concagua, ce genre de choses et tout. Et puis, tu te rends compte que chaque étape de ton existence fait que tu deviens de plus en plus autonome, de plus en plus fort, que tu acquiers une expérience supérieure. Et que tu arrives à gérer plein de choses et arriver à concrétiser ce sommet, tu dis là c'est top, c'est top of the world. Parce que quand tu es en bas et que tu vois l'immensité, le volume de la montagne, tu dis mais c'est pas possible, humainement c'est pas possible.
On profite pas pareil du sommet entre lui et moi. Polo qui nous rejoint, lui, donc qui est plus introverti, voilà, il est là, il est content et il repart, mais il n'exprime rien. Je me rappelle encore de la joie de Jean-Luc, vraiment il me regarde, enfin, C'est comme s'il marquait un but en Coupe du Monde, j'en sais rien, quoi, de foot, enfin, peu importe, mais il exprime une joie, et moi je suis là, je dis, c'est pas possible, j'aimerais être comme lui, mais je me sens vraiment diminué, et vraiment en danger sur la descente. Ouais.
Il y a une joie immense, mais il y a aussi une peur. Il y a une peur qui s'installe. Je me dis, comme les Népalais qui sont à côté de moi, on n'a pas le droit d'être là, parce que c'est la montagne des dieux. L'aube n'est pas encore complètement arrivée. Il fait nuit, il fait moins 40. Je sors cet appareil photo et là, je me rends compte que le Sherpa qui est avec moi, il a encore plus peur que moi. Parce que lui, il est vraiment dans une dimension ultra spirituelle. Et je lui tends cet appareil photo et là, je me rends compte qu'en fait, il prend pas les photos qu'il devrait faire, il prend nos chaussures. Il a tellement peur d'être là, il a tellement envie de redescendre, mais rapidement, qu'il fait n'importe quoi. Et le retour. Le retour, parce qu'il dit, mais tu es haut, mais tu es haut, mais tu es à 8848 mètres. Mais comment vas-tu faire pour redescendre tout ça?
Et vient le moment où il faut redescendre, en fait. Et donc, c'est parti pour la descente, avec vraiment cette conscience de me dire que c'est là que tout se joue, en fait. Enfin, moi, je suis, j'ai à nouveau, hein, en fait, au sommet, quand je fais mon petit body scan. Donc, j'ai 5 orteils, 2 à gauche et 3 à droite, qui commencent à montrer des signes de gelure. Donc, vraiment, le gros orteil gauche, là, qui bougeait plus, je ne sentais plus, quoi. Et en plus, je me rends compte que j'y vois plus d'un œil. Donc, je ne sais pas si c'est le liquide lacrymal qui est en train de geler ou si c'est une forme d'ophtalmie, mais j'y vois plus d'un œil. Je me rends compte au sommet, en fait. Je me dis, waouh, ça va être un peu dur.
On descend et malheureusement, on arrive sur cette scène où John et gît dans la neige. Un peu plus bas que la corde fixe et le Sherpa qui l'accompagnait l'a laissé là et lui a mis de la neige sur le visage, coutume népalaise ou bouddhiste, je peux pas dire. Il y a encore un restant de sa lumière qui est sur son front, qui monte vers le ciel et je vois ce petit halo de lumière qui monte. Ça, c'est quand même pas facile à vivre.
En fait, je croise un troisième cadavre. Mais celui-là, je le reconnais, en fait, c'est un membre de l'équipe russe que j'ai croisé à la montée. Il est décédé quelques minutes après qu'on se soit croisé, en fait. Il est encore attaché, et je le vois, et je suis moi déjà en train de gamberger en me disant, mais est-ce que ce sommet valait le coup, quoi ? C'est-à-dire que là, je vais perdre un orteil, est-ce que ça valait le coup ? Et puis, j'ai qu'une idée, c'est partir de là, quoi, me mettre en sécurité au plus vite, en fait. Hein.
Ça me fait une peine terrible. Mais dans l'instant, je ne peux rien faire pour lui. Et quelque part, on peut très bien imaginer que la prochaine personne qui pourrait éventuellement avoir un souci, ça peut être moi. Et je ne suis pas en capacité de redescendre. Je ne peux pas redescendre une personne qui fait 1m85. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas non plus me prostrer à côté de lui et en versant toutes les larmes de mon corps et en me disant « Je suis prêt à rester avec toi ». Mais ce n'est pas possible, ça. Il y a cette part de survie qui est à l'intérieur de l'humain, quelque part, qui te dit « Tu ne peux rien faire pour lui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. »
Donc, on redescend, on arrive à 8002, là, au camp 3. On a en tête d'attendre Jean-Marc, hein, qui donc qu'on a doublé. Et là, je fais ce qu'il ne faut surtout pas faire en montagne, c'est que, préoccupé par ma gelure, je vais quand même enlever ma chaussure et regarder mon orteil, en fait. La gelure, ça va faire comme une ampoule, et puis dès qu'on enlève le point de compression qui est la chaussure, bah, l'ampoule, elle gonfle, et donc le risque que j'ai pris, là, c'est de ne plus pouvoir remettre mes chaussures, quoi. Mais bon, un peu dans la panique, je ne fais évidemment pas ce qu'il faut. Je regarde, je vois mon orteil gelé, c'est-à-dire que la sensation que j'ai, c'est de toucher mon orteil avec mes doigts et me dire que c'est comme si j'attrapais, du pain ou un steak haché congelé du congélateur, quoi. C'est ma peau, mais ça fait la même sensation de. C'est horrible. Donc, grosse panique. Avec Jean-Luc, on décide quand même de faire quelque chose. J'avais de la soupe de tomate dans mon thermos, là, qui me restait. Donc, on essaie de faire un bain un peu chaud à 8200 mètres. Mon orteil dans la soupe de tomate, ouais, le truc de nas, quoi. Mais ça marche, seulement la soupe de tomate, elle était un peu chaude. Dans l'eau, il faut qu'elle soit pas plus que 37, quoi. Et donc, en fait, je sans m'en rendre compte, je pense que l'eau, elle devait être encore à 50 degrés, quoi. Et je mets mon orteil gelé dans la soupe de tomate. Je crois que j'ai dû me faire une brûlure de niveau 2 sur une gelure de niveau 2. Donc, n'importe quoi.
Et là, je me dis, mais Jérôme, il faut vite remettre les chaussures. Il faut partir rapidement. Je fais parce que là, si ça continue à enfler, tu ne pourras plus mettre les souliers et tu ne pourras plus marcher.
Et donc après, je remets quand même la chaussure et tout ça. Ça a sûrement un effet, je ne sais pas. Enfin bref, Jean-Marc arrive, je lui donne le téléphone satellite pour qu'il prévienne en fait qu'il est arrivé. Il est à peu près content, mais bon, de toute façon, les communications qu'on peut avoir comme ça, c'est un peu difficile. Et surtout, je me vois en train de lui donner le téléphone en disant « nous, on descend » parce que ça fait plus d'une heure qu'on est là et prévient que tu es arrivé.
Jean-Marc, qui est dans une tente à côté et qui, fou de joie, prend le téléphone satellite et appelle en France, appelle sa copine, ses amis. J'ai fait le sommet. Comme si, en gros, on avait fini. Comme si on était en bas. Comme si, en gros, on est tranquille. Et il téléphone. Et je vois sa main. Il a enlevé sa moufle. Donc, on a 8370 mètres. Il a baissé son masque oxygène et il parle. Une main, elle ne peut pas rester non gantée à 8370 mètres. Ce n'est pas possible. On laisse Jean-Marc là avec son Sherpa. Donc, il y a une personne qui est censée l'accompagner. Elle est là autour. On le laisse pensant qu'il va nous rejoindre tout de suite derrière.
Je descends donc à mon rythme. Je me rappelle m'arrêter au bout des cordes fixes. Il reste à peu près 100 mètres jusqu'au camp 1. Et je m'assois. Et j'ai eu du mal à me relever alors que c'est plat, quoi. Je suis complètement déshydraté. Bien fatigué, très tendu en fait, donc j'ai les doigts comme s'ils sont un peu crispés là parce qu'ils sont déshydratés, j'ai le cou qui fait très très mal. Et voilà, donc on arrive au camp de base avancé à 6004 à 4h d'après-midi. Et c'est vrai que quand j'arrive moi au camp, j'ai pas la victoire enthousiaste parce que j'ai toujours préoccupé par cette gelure. Dans la balance, je me dis... Bon, c'était mon rêve, je vais le réaliser, mais est-ce que ça vaut de perdre un orteil, en fait? Puis, à nouveau, la prise de conscience que, enfin, en ayant vu tous ces cadavres et tout, que ça aurait pu m'arriver aussi. C'est-à-dire que là, j'ai le déni qui tombe, qui s'effondre d'un coup, et me dire qu'on est tellement fragile à cette altitude qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'on y reste encore.
On est heureux. Je me retrouve dans ma tente, j'écris quelques notes, et finalement, en fin d'après-midi, on se rend compte que Jean-Marc n'arrive pas.
Donc, on n'a pas de moyen d'entrer en communication avec lui, sauf le protocole qu'on a, qui est de s'appeler par les radios à 8h du soir ou 8h du matin. Donc, arrive 8h du soir, on se dit, ben on va l'appeler. C'est-à-dire que pour nous, il est resté au camp 1, à 7000. On n'est pas hyper inquiet, sauf que quand on l'appelle à 8h, il n'y a personne qui décroche. Ni lui, ni son Sherpa.
On ne sait pas où il est. On imagine 1000 scénarios, ça a jeté véritablement le froid, on se couche. Et de nuit d'angoisse, c'est la matinée. Pareil, on commence à prendre les radios et à essayer d'avoir des informations en haut. Est-ce que vous l'avez croisé? Parce qu'il y a quand même un système de radio, on peut communiquer. On pense dans l'instant que Jean-Marc est mort. Il faut bien imaginer qu'une personne qui vient de faire le sommet, elle a tellement dépensé d'énergie, elle ne peut pas dormir dans une tente à 7500 mètres sans duvet. Et il y a le vent et la tempête qui arrivent. Donc, grosse crise, on ne sait pas ce qui s'est passé véritablement, et on le croit perdu.
Le lendemain matin, on voit son Sherpa arriver seul. Et là, on dit, là, c'est pas normal. Le Sherpa, il reste avec son client, hein. On fait un binôme. Il n'y a pas à se séparer, quoi. Et là, où est Jean-Marc? Il nous dit, moi, il m'a dit de redescendre tout seul, donc il dit, je ne sais pas où il est. Il est soit au camp 1, à 7000, soit au camp 2, à 7005. Mais à 8000, il m'a dit de redescendre et qu'il redescendait à son rythme. Jusqu'à ce qu'on voit arriver Jean-Marc vers 11h du matin, complètement crispé, il n'arrivait pas articulé du tout. Et donc, il s'installe. T'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et c'est une séquence d'ailleurs que Jean-Luc filme. Hein, donc, on a effectivement le point de vue de Jean-Marc.
Cette nuit, j'ai eu peur.
Bah, c'est sûr.
T'as dormi tout seul? J'ai appelé avec le téléphone. C'est quoi?
J'ai tenu toute la nuit. La tente, elle s'est envolée.
Et toi, tu étais dedans? Tu tenais comment?
Moi, je tenais la tente. Il y avait deux ou trois personnes qui étaient un peu à côté, qui hurlaient aussi. Alors moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, putain? Soit je pars.
Oui, mais c'est pire.
Je vous rejoins, et puis je me dis, moi, je vais me retrouver sur un plateau.
Et oui, oui.
Puis je vais crever.
Ouais. T'en as commencé à descendre, tout est
débile. Je vous ai dit, les gars, je vais doucement. Ouais. J'ai mal au cervical. Putain, ce coup, ça s'est déclenché. Impossible d'avancer. Je dis, mais comment je vais faire à 7007? Et c'est là que je me dis, il faut que je redescende, je vais dormir.
T'es resté à 7007?
Je suis resté à 7007.
T'as pas pu boire?
Pas d'eau, pas de chaleur, pas d'oxygène.
Ça t'a réussi. T'as retrouvé ta gonesse.
J'ai gagné au moins 10 ans.
Ah, du jambon. Prends encore un bout de saucisson.
Et là, waouh, tu dis, mince, on s'est désolidarisé et il aurait pu y rester. Après, il a un tempérament, Jean-Marc, à faire les choses tout seul, mais tu te dis, tiens, le principe de sécurité, d'interdépendance, on l'a pas respecté, parce que lui, il l'a pas voulu non plus. Hein, c'est-à-dire que, mais tu te dis, bon, alors moi, j'ai un dentier gelé, Polo, il a un doigt gelé, Jean-Marc, il a deux doigts gelés, Jean-Luc, il a rien, mais bon, on a un peu frisé la correctionnelle quand même, quoi.
On assiste aussi à un groupe qui a vécu une belle aventure commune et qui finalement se retrouve intact. C'est-à-dire que malheureusement, du côté des Russes et de John, ben, de l'autre côté, eux, ils ont une perte. Et mais nous, de notre côté, on n'a pas de perte. En fait, on a des gelures au premier degré, mais tout le monde est bilan.
Avec les Sherpas, vous faites ça, il nous faut des gâteaux, voilà, il y avait un peu de musique et tout ça. Mais alors, je me rappelle bien que Christian et Dominique ont vraiment bien dansé avec les Sherpas, Jean-Luc un peu. Mais nous autres, on était crevés.
Eh oui, c'est dur d'être un héros.
On n'a pas retrouvé Catherine au camp base avancé. Elle, je pense qu'à ce moment-là, elle était dégoûtée. Elle voulait surtout pas nous entendre dire qu'on avait réussi le sommet. Donc, elle était déjà au camp base. Ça fait bizarre de te dire que tu as fait quelque chose, mais tu ne veux pas vraiment profiter avec les autres parce que tu te dis on n'est pas au même niveau. Quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas fait le sommet, qui sont euphoriques. Après, il y en a qui ont fait le sommet et qui disent « Mince, ça se trouve, on pourrait ne pas être là ». Catherine qui est avec nous, qui n'est pas là, elle voulait la même chose et là, elle ne l'a pas. Donc, tu as quand même une. Ce n'est pas comme une équipe de rugby ou de foot qui marque un essai ou un but et qui partage ensemble la victoire. Et une fois qu'on rentre à Katmandou, la première préoccupation qu'on a, c'est d'aller à l'hôpital, en fait, pour les différentes gelures. On apprend tous que ça ira, quoi. C'est des gelures de niveau 2. Donc, ça va mieux pour tous par rapport aux gelures. On se dit, maintenant, c'est que du temps. Là, c'est des soins et faire attention, mais ok, ça va pour ça, quoi.
Il y a des années en arrière, j'ai choisi un mode de vie. J'ai fait de mon existence une existence d'alpiniste engagé dans les Alpes du Sud ou en Alsace française. Parce que quand on est dans des situations comme celle-là, c'est là qu'on se sent pleinement vivant. On n'est pas totalement aseptisé dans une société qui vous mange votre énergie, qui vous mange votre liberté. J'ai véritablement l'impression d'être maître de mon existence et de dire à un moment donné, je fais ce choix, il m'appartient et j'ai cette richesse-là de faire ce choix-là. J'y vais parce que j'aime ça, parce que ça fait des années que je suis dans cet univers et qu'aujourd'hui, j'ai une part d'addiction à ce genre de choses, à ce genre de défis, et que, quelque part, ça m'aide énormément dans ma vie de tous les jours. Ma famille sait comment je fonctionne depuis des années. Ils respectent énormément mes choix. Ma femme est très fière de ce parcours, de cette ascension, de cette réussite. Là, dernièrement, là, quand je suis reparti en Himalaya, j'avais pris des dispositions pour leur dire que j'aimerais que certaines choses soient faites pour eux, pour leur futur. Et qui respecte mes choix de ce que j'avais décidé. C'était une précaution de dire « Toi, ma fille, tu auras ça, et toi, mon fils, tu auras ça. » Ma fille l'a très bien pris. Mon fils, pas du tout. Mon fils est gendarme, il partait pour Nouméa. Il m'a dit « Me fais pas le coup de m'obliger à revenir de Nouméa. » Il a cru que, en gros, je leur disais « Je pars, mais je vais pas revenir. » Alors que pour moi, c'était « Je fais pas les choses de façon aléatoire, mais qu'il y a quand même une certaine réflexion. »
La leçon que j'en tire, c'est que, premièrement, je pense avoir atteint une limite, et psychique et physique. Hein, c'était vraiment, vraiment dur. Psychique, c'est donc par rapport à cette rencontre avec la mort. Je me suis dit, plus jamais 8000. Moi, la décision que j'ai prise derrière, c'est de dire, c'était mon rêve, j'ai fait le reste, c'est le plus haut. Hein, mais j'enchaîne pas sur, qui était le projet de certains, d'autres 8000. Le deuxième élément, c'est la montagne ou autre est toujours là, mais que moi je suis pas éternel, donc ils mettent moins d'enjeux en fait dans les projets de focalisation sur l'objectif. En fait, moi j'y vais pas pour mourir, hein, comme je sors pas dans la rue pour mourir. Donc moi j'y vais plutôt pour l'expression de quelque chose qui est en moi. Moi je me sens pas du tout immortel. C'est l'environnement, que ce soit la montagne ou les zones polaires, qui commande en fait.
Depuis l'expédition de 2011 sur l'Everest, deux des personnes qui étaient sur cette expédition, Catherine et Jean-Marc, sont malheureusement décédés. En montagne, Catherine est décédée au Manaslu, dans une grosse avalanche, et Jean-Marc est décédé sur un sommet, Namadablam, en Himalaya. Jean-Marc, en fait, il ne s'est jamais véritablement extirpé de la montagne. L'Everest l'avait déjà bien conditionné, Et la Madame Lame l'a complètement cloisonné. Et nous, on a pu s'en extirper. Pour la date anniversaire de Jean-Marc, j'étais en Himalaya. Et quand j'ai regardé mon altimètre qui me donnait la date du 4 novembre, j'ai pensé à lui tout de suite. Et j'ai regardé la montagne, j'ai pensé à Jean-Marc et je me suis dit, je vais essayer de ne pas commettre tes erreurs. Et ça m'a fait faire demi-tour. Moi, je me suis retrouvé sur un camp de base où il n'y avait plus personne. À part un Polonais qui redescendait, j'étais le dernier occidental. Et après, je me suis dit, les clignotants ne sont pas ouverts, il se passe ça. Toi, tu vas te retrouver tout seul. Et s'il y a quoi que ce soit, en gros, on dira, ça ne faisait pas, mais il a quand même voulu tenter. Et je n'ai pas voulu imposer ça à ma famille, parce qu'à un moment donné, tu vas le payer le prix fort. J'ai un peu des remords. Mais voilà, je me dis que quand même, j'ai la chance aussi de pouvoir parler de ce que j'aime et de revenir dans ma famille, de retrouver mon confort. Voilà, et ma vie, c'est pas. Voilà. Cette dernière expérience himalayenne, on va pas dire que c'est un échec, parce que revenir, c'est magnifique. C'est une autre aventure.
Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Maud de Carpentier. La réalisation et le mix sont d'Amandine Robillard. Si vous aussi, vous souhaitez nous partager votre histoire, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. À très vite.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.